Bonsoir ou peut-être bonjour. En tout cas, ici à Paris, il est pile 19h.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Des faits, des commentaires, des reportages, c'est RFI Soir. Tout de suite, le journal. À la une de l'actualité, le séisme en Thaïlande et en Birmanie avec plus de 1600 morts dans ce dernier pays. Un grand rassemblement à Istanbul en soutien à l'ancien maire qui se situe dans l'opposition. Et puis en Guinée, Dadis Camara, gracié par le chef de la junte. La reprise de la guerre à Gaza, l'initiative de l'armée israélienne, le Hamas affirme qu'elle a coûté la vie à 921 personnes, dont 25 au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le bilan total depuis le début de la guerre est désormais de 50 277 victimes dans cette bande de Gaza. Dans le même temps, le Hamas vient de diffuser une nouvelle vidéo d'un otage israélien retenu donc à Gaza. À ce stade, ce sont plus de 1600 personnes qui ont perdu la vie en Birmanie, dans le puissant séisme qui a frappé la région hier et a aussi endeuillé la Thaïlande. Le tremblement de terre a été peu profond, ce qui a augmenté son impact. Les secours continuent de travailler d'arrache-pied pour retrouver des victimes sous les décombres des bâtiments qui se sont effondrés. Pierre Olivier, la junte au pouvoir en Birmanie a aussi lancé un appel à l'aide internationale.
Fait rarissime, le chef de la junte appelle tout pays et toute organisation à apporter son secours à la Birmanie, d'habitude extrêmement fermée. De son côté, l'opposition armée annonce cesser ses actions de résistance pendant les deux prochaines semaines dans les zones les plus touchées. Car pour les secouristes, la tâche s'annonce immense. Des centaines de personnes seraient coincées sous les décombres. L'étendue du désastre est encore difficile à évaluer. L'aéroport de Mandalay, la deuxième ville du pays, n'est plus en état de fonctionner. Et c'est par la route sur 700 km que les secours devront accéder aux zones les plus impactées. Pour l'instant, la Chine dit avoir envoyé 82 sauveteurs. L'Inde a pour sa part affrété un avion vers Rangoon avec du matériel de premier secours. La Corée du Sud, la Malaisie, les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé ont également annoncé leur aide. Un peu partout dans le monde, des équipes de sauveteurs se tiennent prêtes à intervenir, mais pour l'instant, les formalités de visa semblent freiner leur arrivée.
Malgré la répression, l'opposition ne désarme pas en Turquie. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Istanbul à l'appel du CHP, le parti d'opposition du maire d'Istanbul, justement pour dénoncer l'arrestation de Ekrem İmamoğlu. Liberté recouvrée pour Moussa Dadis Camara. En revanche, c'est en Guinée. Il avait été condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité, mais gracié hier pour raison de santé. La réaction de maître Alpha Amadou Diesba, l'avocat des victimes du massacre.
Nous ne sommes pas surpris de ce décret de grâce, puisque depuis l'ouverture de ce procès, nous nous attendions à ce que de telles mesures soient prises pour conforter une certaine situation politique. Mais nous sommes quand même déçus que cela intervienne avant même que la Cour d'appel ne se prononce sur le mérite du recours qui a été justement introduit par M. Moussa Dadis Camara. Donc on est assez déçus que cette décision intervienne avant qu'il y ait une décision définitive dans cette affaire.
Comment expliquez-vous cette décision?
Je pense qu'il y a la volonté de ménager à la fois les victimes et aussi les auteurs de ces crimes sous l'autel de la politique. Je pense que cela a dû servir de motif. Donc, c'est des motifs que nous ne comprenons pas. En fait, cela renvoie au fait qu'on est en train de vouloir marchander les indemnisations et en même temps, on garantit l'impunité à ceux qui ont commis ces crimes au stade du 28 septembre.
Des propos recueillis par Pierre Firsion. Plusieurs centaines de personnes rassemblées devant l'ambassade américaine à Copenhague. Elles brandissaient des pancartes sur lesquelles étaient écrits « Trump et Poutine volent des pays » ou encore « Faites des glaçons, pas la guerre ». La diplomatie danoise déplore la virulence des critiques du vice-président américain sur l'inaction supposée du pays au Groenland. Ce n'est pas ainsi que l'on s'adresse à ses proches alliés. Je considère toujours Danemark et les États-Unis comme des proches alliés, dit le ministre des Affaires étrangères danois. Hier, l'adjoint de Donald Trump s'était rendu sur la base américaine de Pitufik pour s'en prendre donc au Danemark. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr qui sera fêté demain et qui marque la fin du Ramadan, le régime en Afghanistan libère plus de 3000 prisonniers et parmi eux, une américaine. Cette grâce collective, Vincent Souriau, est un rare geste de clémence de la part des talibans.
Les talibans estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher. Leur discours n'a pas changé depuis leur premier règne à la fin des années 90. Nous prononçons les décisions de justice conformément aux principes islamiques. La population afghane n'y est pas hostile. Les enquêtes de terrain montrent que les juges talibans ont plutôt bonne réputation. Ils ne sont pas aussi corrompus que les magistrats de l'ancien gouvernement. Mais depuis son retour au pouvoir en 2021, l'insurrection islamiste enferme de plus en plus de dissidents, de journalistes ou de civils accusés d'infractions religieuses. La peine de mort a été rétablie et les organisations internationales dénoncent des procès bâclés ainsi que l'absence totale de contrôle indépendant sur les conditions de détention. On ignore le nombre exact de prisonniers détenus dans les pénitenciers afghans, mais d'après l'ONU, les arrestations massives et les très longues peines de prison exercent une pression insoutenable sur le système carcéral.
L'OMS fait face à un manque à gagner de près de 600 millions de dollars pour cette année et n'a pas d'autre choix que de commencer à faire des coupes budgétaires afin de réduire ses missions et son personnel. Son directeur général propose donc d'amputer d'un cinquième son budget suite à la décision des États-Unis, son principal contributeur, de se retirer de son financement. Justin Welby, qui avait démissionné en novembre de ses fonctions à la tête de l'Église anglicane en raison de sa gestion d'une affaire de pédocriminalité, reconnaît ne pas avoir pris la mesure du scandale et s'être trompé. L'ancien archevêque de Canterbury, qui a cédé sa place début janvier, s'exprime sur les antennes de la BBC. Une interview à écouter demain. Le mouvement de contestation contre Elon Musk se répand dans le monde. Parti des États-Unis, il a pris très vite de l'ampleur et c'est aujourd'hui la première journée d'action à l'échelle de la planète. La seule usine Tesla en Europe est en Allemagne, près de Berlin, en lieu et place de 300 hectares de forêt. Une manifestation qui avait lieu, y avait lieu, à laquelle participait Roland, très remontré contre Elon Musk, devenu un proche conseiller de Donald Trump.
Ce qui m'impressionne, c'est que les gens du monde entier participent désormais à cette lutte contre un homme qui mélange les genres pour le pouvoir et pour toujours plus de pouvoir. Il fusionne le pouvoir d'influence avec X, le pouvoir économique et maintenant le pouvoir politique. Les gens se rendent compte que ça va dans une direction qu'une majorité dans le monde ne veut pas du tout. Ils veulent une démocratie. C'est quand même fou que nous ayons à la défendre, non ? Elle ne doit pas être abîmée. C'est pour elle et pour protéger nos droits que nous devons tous aujourd'hui nous regrouper. Avec une action de protestation mondiale, cela fait chuter les actions. Tesla pourrait bien finir comme Nokia. C'est aussi un peu stupide parce que des emplois sont concernés. Il y aura des chômeurs. Ici, il y a eu beaucoup d'investissements et d'argent public où Musk a préféré polluer une zone où l'eau potable est une ressource protégée et raser toute une forêt.
Propos recueillis par le correspondant de RFI en Allemagne, Ludovic Piétenu. Toute la semaine, 60 Brésiliens, Chiliens, Néo-Zélandais ou Kenyans étaient au Centre National de la Mer, situé à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Tous formés aux changements environnementaux et connaissent les pressions exercées sur l'océan. Une dizaine d'entre eux iront porter le manifeste de la jeunesse pour l'océan à la conférence des Nations Unies qui se tiendra à Nice au début du mois de juin. Voyons cela avec Jérôme Bosman.
Au terme d'une semaine de travail dans une ambiance multiculturelle, il est l'heure pour les citoyens de l'océan de rendre leur copie. À tour de rôle, ils exposent leurs recommandations pour protéger les mers et leurs habitants.
Nous, représentants de la jeunesse, demandons une augmentation du financement et des investissements en faveur de l'océan. Cela peut être réalisé par l'établissement d'un modèle économique durable qui garantisse 50 millions de dollars par an à partir de 2035 pour des politiques de préservation à long terme.
Autre préconisation importante, la ratification du traité international sur la haute mer, un enjeu crucial pour le succès de la conférence de Nice. Ana Elena Pinto Lissano, ambassadrice du Costa Rica, pays co-organisateur du sommet, était dans l'assistance.
La France et le Costa Rica ont fait depuis plusieurs mois un travail très intense auprès des pays du monde. Il est très important que nous arrivions à avoir toutes les ratifications dont nous avons besoin pour qu'ils rentrent en vigueur.
Yvonne Agen, responsable des relations internationales à Nausicaa, espère que le manifeste sera utilisé à tous les niveaux.
J'aimerais bien que ça soit un document de référence pour qu'ils puissent mettre en place chez eux les actions concrètes qu'ils peuvent utiliser au niveau international, aussi bien à Nice qu'ailleurs, comme conférence climat au Brésil.
Les jeunes demandent enfin qu'à Nice, leur voix soit réellement écoutée. Jérôme Bosman, de retour de Boulogne-sur-Mer, RFI.
Et puis c'est un phénomène à voir sur une partie de l'hémisphère nord, de l'est du Canada à la Sibérie, en passant par la Mauritanie et le Maroc. Le soleil a rendez-vous avec la lune, qui viendra cacher un bout de l'astre lors d'une éclipse partielle. C'est la première de l'année, elle durera environ 4 heures. Une éclipse de soleil se produit lorsque le soleil, la lune et la Terre sont alignés dans cet ordre. Il est maintenant 18h passées de 10 minutes en temps universel. Pour ce qui est des sports, Babacar Diarra, le football pour commencer avec la 27e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille doute profondément au retour de la trêve internationale.
Les Marseillais viennent de tomber chez une équipe qui n'avait pas gagné le moindre match depuis le 10 novembre dernier. Le Stade de Reims, vainqueur 3-1 cet après-midi. La fin d'une dizaine de près de 5 mois pour le club de Champagne qui voyait à chaque match la zone rouge se rapprocher. Keito Nakamura, Mamadou Diakon et Valentin Atangana ont marqué les 3 buts rémois. Et malgré une belle prestation, le gardien sénégalais de Reims, Yevan Diouf, a concédé un but dans le dernier quart d'heure, signé Valentin Rongier. Cette défaite marseillaise entre dans les conditions pour voir le Paris Saint-Germain couronné en tant que champion dès ce soir s'il s'impose à Saint-Étienne.
Il est la condition pour voir un 13e sacre national parisien ce soir, vous le disiez, dépend du résultat du derby azuréen AS Monaco OGC Nice.
Un nul entre les deux clubs arrangerait les supporters parisiens qui voudraient fêter ce soir le titre. Monaco et Nice sont à égalité à la 3e place avec 47 points. Cela rend leur derby pimenté. Et côté niçois, l'une des armes sera la gâchette ivoirienne Evan Guessant, auteur de 11 buts en championnat. L'éléphant a débloqué son compteur en équipe nationale il y a 8 jours en marquant le but de la victoire face aux Hirondelles du Burundi. Cette parenthèse avec les champions d'Afrique lui a fait un bien fou.
Beaucoup de fierté parce que voilà, je l'attendais aussi. Voilà, j'avais envie de faire plaisir à cette équipe nationale, de faire plaisir à ma famille et à moi-même. C'est sûr, j'ai une chose qui a été faite. Il y a encore d'autres objectifs à aller chercher. J'espère les atteindre. Je reviens à un autre match important. Le switch assez vite parce que on sait à quel point ce match est important pour nous dans cette fin de saison. On connaît le contexte, hein. Même nombre de points, on est à peu près à la même position au championnat. Je pense que nos supporters vont être très présents là-bas. Alors, je ne doute pas de ça, mais j'espère qu'au bout, il y aura la victoire.
Evan Guessant avant le match AS Monaco OGC Nice dans un peu moins de 2 heures. Et on le rappelle, s'il est à vainqueur dans cette rencontre et que le PSG s'impose, le PSG sera champion.
Oui, le suspense est quasiment inexistant, en tout cas au final, en championnat de France. À l'inverse de ce qui se passe en Espagne, la Liga, où 3 équipes sont en lutte pour le titre.
Dans le trio de tête, le 3e, l'Atlético Madrid, était le premier sur le pont ce week-end. Les Colchoneros n'ont pas fait mieux qu'un nul 1-1 face à l'Espagnol Barcelone, une équipe en lutte pour le maintien. Le Real Madrid, 2e à 3 points du Barça leader, va tenter d'en profiter pour distancer son rival madrilène face à Leganés ce soir. En amont de cette rencontre, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, a à nouveau été sollicité sur le poste du sélectionneur du Brésil, vacant depuis le limogeage de Dorival Junior hier. Alors, la presse lui a demandé si la fédération brésilienne l'a courtisé alors qu'il est sous contrat au Real jusqu'en juin 2026. Voici sa réponse.
Mon contrat est clair, je crois que je n'ai rien à dire de plus. J'ai beaucoup d'affection pour la sélection brésilienne, pour ses joueurs, ses supporters, mais je suis sous contrat au Real. Est-ce que j'ai été contacté récemment par la fédération brésilienne? Non, tout simplement non.
Carlo Ancelotti concentré sur ses objectifs avec le Real Madrid, tandis que la presse brésilienne évoque un autre nom, celui de l'entraîneur portugais Jorge Jesus, pour diriger la Seleção.
Voilà pour le foot, le rugby. L'équipe de France féminine s'impose face à l'Écosse dans son 2e match de tournoi destination.
Les Bleus peuvent rêver du Grand Chelem après leur succès 38-15 devant un stade Marcel de Flandre de La Rochelle à guichet fermé. Le rêve d'une finale face à l'Angleterre à l'occasion de la 5e et dernière journée reste d'actualité. La France a rendez-vous pour son 3e match le samedi 12 avril face au Pays de Galles. Ce sera à Brive.
Babacar Diarra pour les sports.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Une peine ferme, juste, dissuasive au regard de la gravité des faits. Ce sont les arguments du parquet financier pour requérir 7 ans de prison à l'encontre de Nicolas Sarkozy. L'ancien président français est accusé d'avoir noué un pacte de corruption avec le dictateur libyen Kadhafi pour financer une campagne électorale en 2007. Ce procès s'était déroulé jusque-là dans un relatif silence médiatique, à Maurice Rochegonde.
Oui, des réquisitions qui pèsent lourd dans cette soudaine médiatisation, puisque le parquet national financier a requis 7 ans de prison contre l'ancien président, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Les mots employés par les procureurs ont aussi porté. Ils ont dépeint l'ancien chef d'État comme le véritable commanditaire d'un pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent, noué avec Kadhafi. Pourtant, alors que le procès a débuté le 6 janvier, ce n'est qu'une toute petite médiatisation dans la durée si on la compare à d'autres procès. La société AD, qui scrute les médias, a compté 7800 articles ou contenus liés à ce procès dans les médias français, soit deux fois moins que les procès Pellico sur les viols de Mazan ou sur le pédocriminel Le Squarneck.
Alors pourquoi cette frilosité, pardonnez-moi Amaury, concernant un tel procès politique?
Ben, il y a d'abord le fait que l'affaire a été révélée par un outsider, Mediapart, en 2011. Or, ce journal a parfois été soupçonné d'être de parti pris, ce que Sarkozy a entretenu en le traitant d'officine et en le poursuivant pour faux et usage de faux sans obtenir gain de cause. Ensuite, le fait qu'elle a pu apparaître complexe à des médias audiovisuels qui doivent résumer les faits en 2 minutes. Pourtant, comme le note le journaliste de Mediapart, Younes Abzouz, l'affaire montre la délinquance en col blanc, ce crime social qui se nourrit de l'indifférence médiatique. Avec des détails cocasses comme le coffre-fort de Claude Guéant, prétendument loué pour entreposer les discours de Sarkozy.
Et puis les liens des médias avec Nicolas Sarkozy sont également à prendre en compte.
Bien sûr, Sarkozy est un ami de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues ou d'Arnaud Lagardère et forcément, leurs médias peuvent avoir des biais, des gênes ou des silences. Là où CNews parle d'acharnement judiciaire, TF1 préfère suivre le procès Depardieu ou l'enquête sur la disparition du petit Émile. Quant au Figaro, qui avait caviardé en 2011 une interview de Kadhafi où il déclarait avoir donné des fonds à Sarkozy pour sa campagne, eh bien, le journal fait le service minimum. Son actionnaire Dassault avait obtenu un contrat pour vendre des rafales à la Libye. Et puis il y a les médias qui ont été impliqués dans la défense de Sarkozy, soit en le faisant venir en plateau, soit en prêtant la main à des manipulations comme les fausses rétractations de Ziad Takieddine dans Paris Match ou BFM TV. On préfère la force d'un démenti à la brutalité des faits, avait déclaré Fabrice Arfi de Mediapart, en rappelant qu'il n'y avait eu aucune couverture du News Magazine sur cette affaire.
La situation des médias au Burkina Faso à présent, le musellement de toute voix dissidente est devenu la règle. C'est la déclaration de Human Rights Watch sur l'antenne de RFI. L'ONG de défense des droits humains s'alarme de la série d'arrestations, puisqu'en une semaine, au moins 8 personnes, dont 5 journalistes, ont été détenues dans un lieu qui est toujours inconnu. Nouvelle preuve de la répression contre la presse depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. C'était en 2022, Sidi Yansané.
Il y a une semaine à Ouagadougou, l'association des journalistes de Burkina présente son nouveau bureau national. Le président Guizouma Sanogo prend la parole et fustige la totale mainmise de la junte du capitaine Ibrahim Traoré sur les médias publics.
Une autre caractéristique, la haine et la diabolisation des médias se traduit par les enlèvements et les séquestrations des journalistes.
À côté de lui, Boukari Wouba, fraîchement élu vice-président de l'AJB, une promotion de courte durée. 3 jours plus tard, des hommes se disant agents des renseignements l'emmènent avec son président, un mode opératoire devenu la norme au pays des hommes intègres. Ses confrères et consoeurs sont unanimes. Boukari était le gardien du temple du Centre National de Presse Norbert Zongo, qui faisait le relais avec les exilés. Analyste percutant, enquêteur, homme de terrain. Pour son magazine Le Reporter, il livre un papier sur la disparition du milicien Django, l'une des toutes premières victimes d'enlèvement sous la junte du MPSR2. Sadibou Marong, directeur du bureau régional de RSF.
Il a gagné pas mal de prix, Boukari. Il a la question de la disparition de Django, l'artiste milicien là, qui était devenu leader des Kolwego dans l'Est, bon, qu'on appelle Moussa Tchombiano. Boukari, c'est également un journaliste très engagé qui est tout le temps aux côtés de ses confrères aussi et qui n'a pas peur de s'exprimer pour la justice et l'égalité, mais également la dignité de la population.
9 mois plus tôt, c'est une autre vague d'enlèvement qui s'abat sur 4 journalistes, dont Atiana Serge Houlon, kidnappé à son domicile. Le directeur de publication de l'événement a été réquisitionné pour combattre au front, dira plus tard le ministère de la Justice du Faso. Pour ses confrères, Serge est un enquêteur né. Comparant son journal L'Événement à Mediapart, le site d'information français qui s'est forgé une réputation mondiale en moins de 10 ans, Serge Houlon a enquêté sur le détournement présumé de 400 millions de francs CFA destiné à financer les supplétifs VDP et empoché par un certain capitaine du Centre Nord, d'après l'article. Sadi Boumarong.
Cela lui a valu une audition par le tribunal quelques semaines, mais c'est un grand professionnel dont la qualité de ses sources a rapidement attiré, disons, les nouvelles autorités pour que ces autorités-là puissent essayer de le suivre davantage. Serge est aussi un journaliste qui recevait des prix sur la lutte anticorruption dans la presse. Il fait partie de la crème. Ce sont ces journalistes-là dont le Burkina a besoin, et donc ces journalistes ne doivent pas passer une seconde dans une prison de notre point de vue.
Pour son ultime publication en août dernier, l'événement a publié le portrait de Serge Loulon en première page. Et cet édito, titré « Qu'est-ce qui nous arrive ?», référence au climat crépusculaire du journalisme burkinabé, reconnu pour être l'un des plus performants d'Afrique de l'Ouest.
Sidi Yanzané dans RFI Soir.
Libreville, 104 FM.
Libreville, ou comme ailleurs au Gabon, on se prépare à l'élection présidentielle du 12 avril. 8 candidats, dont le chef de la transition, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui a lancé sa campagne sous l'étendard du Rassemblement des bâtisseurs, pour sortir du cadre de l'ancien parti au pouvoir, le PDG. Pourtant, il n'hésite pas à revendiquer l'héritage d'Omar Bongo, dont il fut l'aide de camp pendant 8 ans. Comme lui, il vient de la province la plus orientale du pays, le Haut-Ogooué. Et pour RFI, François Mazet s'est rendu à Franceville, le chef-lieu de cette province.
À notre passage à Franceville, nous sommes à plus d'un mois de la campagne officielle. Pourtant, impossible d'ignorer que le chef de la transition sera bientôt candidat. Le général Oligui Nguema s'affiche sur tous les boulevards et les rassemblements d'associations de soutien créés pour l'occasion se multiplient. Ce samedi, plusieurs centaines de femmes en t-shirt blanc, comme Imelda, une infirmière en formation, ont été convoyées des localités du Haut-Ogooué.
On veut qu'il pose la candidature pour lui voter parce qu'on voit déjà ce qu'il fait. Ça lui prouve déjà qu'il a l'amour pour la population et il a pitié de la jeunesse.
Là ici, vous l'avez vu en ville, des choses qui changent depuis un an et demi?
Oui, il change, il construit, on a vu comment il construit, il y a les maisons, les routes, surtout dans mon village à Onga. Les merveilles qu'il fait déjà là-bas, ça me prouve déjà qu'il adore sa population.
Ornières bouchées, façades en réfection, écoles réapprovisionnées, les marques du CTRI, le comité militaire qui a renversé Ali Bongo, sont partout à Franceville. Dans les collines environnantes, les nouvelles villas fleurissent et les projets laissés en suspens reprennent. Mais tout le monde n'est pas convaincu par la frénésie de béton qui a gagné la transition. Guy Roger Mangonda est professeur dans un lycée de la ville.
À chaque période électorale, on a souvent vu la même chose. Ce sont des opérations de charme. Ali Bongo, quand il est arrivé, il disait qu'il était un bâtisseur. Il a commencé à faire ce que M. Oligui est en train de faire. Et après, on a compris que ce n'était pas finalement un bâtisseur. Les gens qui ont accompagné Bongo père, ce sont les mêmes qui ont accompagné Bongo fils, ce sont les mêmes qui accompagnent Oligui. Et pourtant, M. Oligui avait dit que ce sont eux qui ont fait tomber le Gabon. Il n'y a rien qui est restauré.
Un constat partagé par Marcel Libama, leader syndical, adversaire de l'ancien régime, député de la transition. Il espérait lui aussi une rupture plus nette.
Mais à l'évidence, nous nous rendons compte qu'il y a une continuation. C'est les mêmes choses, les mêmes façons de faire, les mêmes réflexes. Donc il y a un paradoxe entre ce qui se passe sur le terrain et la gestion, les gestionnaires du pays. Ça nous laisse pantois, dubitatif, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut ?
Malgré ses réserves et comme la quasi-totalité des cadres de l'ancien pouvoir, des ex-opposants et des figures de la société civile, Marcel Libama a finalement intégré la campagne Oligui Nguema dans le Haut-Ogooué. François Mazet de retour de Franceville, RFI.
Feuilletons à présent un livre qui a pour titre Radio Vladimir. Dans cet ouvrage, Philippe Dziadko raconte les actes de résistance de ceux qui, aujourd'hui comme hier, osent s'opposer au président russe. L'écrivain russe en exil, petit-fils et fils de dissident, en dit plus à Anastasia Bekio.
Philippe Dziadko, bonjour.
Bonjour.
Le titre de votre livre fait référence à une radio pirate d'un homme, Vladimir Roumiantsev. Vous avez entretenu une correspondance avec lui lorsqu'il s'est retrouvé en prison.
Oui, c'est un homme étonnant. Il a plus de 60 ans. Il vivait seul dans la ville de Vologda. C'est une petite ville de province située à 500 km de Moscou. Vladimir a travaillé toute sa vie dans des usines. Il était ouvrier de chaufferie et il était lui-même issu d'une famille ouvrière. Son père a travaillé à l'usine pendant 50 ans. Il a commencé à travailler sous Staline et il a terminé sa carrière sous Poutine. C'est donc un homme du peuple, un homme de la classe laborieuse. Un jour, cet homme décide qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe autour de lui, et toute sa vie, il a été amoureux de la radio. Lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014, il a décidé qu'il ne voulait plus écouter la propagande de l'État qui était diffusée sur les ondes. Il a tout éteint dans son appartement. Le silence s'est alors installé. Il fallait bien remplir ce vide, et il a donc commandé différents composants sur Internet. Il a construit sa propre station de radio, dont le rayon de diffusion se cantonnait à son appartement et à plusieurs appartements voisins.
Et malgré le fait que sa radio pirate était vraiment confidentielle, il a été arrêté à l'été 2022, il a été incarcéré. Dans votre livre, vous parlez de ces personnes, anonymes pour la plupart, qui continuent de s'opposer au régime, à la guerre, mais dans un environnement de plus en plus répressif. Comment exprimer aujourd'hui son désaccord sans risquer de finir en prison ?
C'est très dangereux et peu de gens réalisent à quel point c'est dangereux. Dans mon livre, je parle de cette société secrète parce que ces gens ne se connaissent pas les uns les autres. Il y a des personnes connues comme Alexei Navalny, cela fait plus d'un an qu'il n'est plus avec nous. Il y a aussi l'élu municipal d'opposition, Alexei Gorinov, qui est un véritable héros et qui est la première personne à avoir été condamnée pour avoir dénoncé la guerre. Il est torturé en prison et nous devons faire pression pour qu'il soit libéré. Plusieurs milliers d'autres personnes sont persécutés pour leurs opinions anti-guerre. Mais il y a aussi tous ceux qui sont impliqués dans une résistance discrète. Nous ne connaissons pas leur nombre. D'une manière générale, la Russie est aujourd'hui à bien des égards une boîte noire. Ce que disent les autorités, en citant les chiffres du soutien à la guerre, est certainement un mensonge. Et nous ne savons pas vraiment ce que pense la société russe. Mais nous avons divers témoignages d'actes de résistance. C'est parfois une résistance ouverte, comme dans le cas des célèbres prisonniers politiques. Mais parfois, elle est peu visible. Mais elle existe.
Et il y a aussi toutes ces lettres, ces milliers de lettres de soutien que reçoivent ces prisonniers politiques.
Oui, écrire aux prisonniers politiques, c'est l'un des moyens de soutenir et de prendre part à cette société secrète. On peut leur écrire des courriers électroniques par l'intermédiaire du système pénitentiaire. Les prisonniers politiques racontent que c'est un soutien incroyable pour eux. Et à leur tour, ils soutiennent ceux qui sont à l'extérieur. C'est d'ailleurs un paradoxe frappant. Les prisonniers politiques sont souvent beaucoup plus optimistes que les personnes qui sont à l'extérieur et qui sont déprimées du fait de cette guerre. En quelque sorte, les prisonniers politiques soutiennent ceux qui sont à l'extérieur.
Vous avez quitté la Russie dès mars 2022, juste après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Vous vivez maintenant à Berlin. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
Les deux premières années après mon départ de Russie, j'avais le sentiment que je n'avais pas le droit d'avoir des états d'âme et que je ne devais pas penser à moi. Une guerre terrible est en cours en Russie, on enferme des prisonniers politiques derrière des barreaux et moi, je vais penser à ma tranquillité d'esprit. C'est inconvenant. Mais ensuite, j'ai mûri et j'ai compris que pour pouvoir faire quelque chose pour les autres, il faut aussi s'occuper de soi. C'est un peu comme dans un avion. On doit d'abord mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre à son enfant. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, moi, mais d'autres aussi, on met ce masque à oxygène et qu'on apprend à vivre une nouvelle vie. Cela nous apprend l'humilité. On regarde les erreurs que l'on a commises, on apprend.
Philippe Zetko, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Radio Vladimir, aux éditions Stock.
Alors qu'il est 21h28 à Moscou. En France, Eddy Mitchell se repose et il le fera tout l'été. Comme le chanteur doit suivre un traitement médical strict et se reposer pour sa convalescence, il annule sa tournée estivale. Le célèbre crooner rock est âgé de 82 ans.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né.
Après avoir emporté une victoire de la musique d'honneur en février, Eddy Mitchell avait prévu de remonter sur scène après la sortie fin 2024 de son 40e album, Amigos, mais il ne donnera pas de concert au Francofolie La Rochelle comme prévu.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce chef d'entreprise a traversé toute l'histoire récente de la RDC, dont il dirige l'un des plus grands groupes privés. Le Belge Georges-Arthur Forest, 85 ans, pense que l'Afrique peut nourrir le monde. Le vice-roi du Katanga, tel qu'il est surnommé, est notre invité exceptionnel.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Religion du monde. Véronique Guémard.
Alors que s'achève le ramadan pour les musulmans avec l'Aïd el-Fitr, certains, au cours de ce mois sacré, ont tenu, malgré le contexte de tensions internationales, à partager des repas de coupure du jeûne avec des représentants d'autres religions ou de simples citoyens. Reportage en banlieue parisienne.
Religion du monde, avec Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.